Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
D'accord.
Je vais gagner, excusez-moi.
Moi, je n'ai plus rien à dire.
On est passé à deux doigts d'une grande catastrophe.
Je comprends.
Je crois que je me suis coupé.
J'ai coupé l'arcade tourcilière avec une feuille.
C'est
voilà, on en est là, hein, donc on en est là.
Exalté avec son conducteur.
Ouais. Franchement, je ne sais plus quoi dire.
On fait pas d'image.
C'est quoi pendant la conférence de rédaction? Je vais reprendre mes esprits.
J'espère pour vous.
En plus, on va faire une spéciale économie, mais.
Oui, avec Castaner et Riester.
Attendez, Julien Dardot, regardez-tu, je ne suis pas blessée.
Et on va vous penser peut-être le. Voilà, oui. Oui.
Salut les amis.
Salut, salut Charlie.
Est-ce que vous ne trouvez pas que d'une manière générale, il faudrait en finir avec le discours dominant en économie?
Oh là, c'est-à-dire ouais. Attends, moi je vais prendre un café moi d'abord.
Ah non, parce que ce week-end, j'ai lu le bouquin de notre invité, Thomas Porcher, le traité d'économie hérétique.
Elle a travaillé ce week-end.
Ouais. Elle a lu un livre d'économie.
Ouais, mais attends, c'est passionnant, puis j'ai tout compris.
Attends, t'as aimé un livre d'économie?
Attends, t'as compris un livre d'économie?
Mais oui, on nous assène des soi-disant vérités économiques qui en fait servent les intérêts de la classe dominante, bien sûr, toujours les mêmes.
Ah bah oui, là oui.
C'est pas de l'économie, c'est de l'économie de gauche.
Alors là, l'économie de gauche, ça s'appelle le partage.
Voilà. L'économie de gauche, c'est parler la langue des signes à un aveugle, c'est rigolo, mais c'est pas bien utile.
Mais c'est pas la question, il faut augmenter les dépenses publiques.
Ah oui, et si Dominique Seux, il écoute l'émission, il va faire un AVC.
Il faut protéger notre modèle social, mettre de l'argent dans les retraites, l'éducation, les hôpitaux.
Oui, va nous la cœur, présidente.
Voilà, creusons la dette.
Oh, mais on peut pas la dette, ne l'écoute pas, Domi, elle est manipulée.
Ah, il s'en remettra pas, le Domi.
Augmentons les impôts.
Ah, mais oui, mais je vais lire ce livre.
Hérétique.
Augmentons les prestations sociales.
Je suis atterré.
Je vais le donner à la sortie de mon spectacle.
Mais moi je vous laisse, je vais acheter les échos.
Mais
voilà.
Mais
fou. Non, vous me fatiguez.
Mais pourquoi il fait ça?
Mais allez, pour une fois que je m'enthousiasme pour l'économie.
Ça c'est les gens de droite, ça. Ils aiment pas quand on s'intéresse à leur passion.
Bonjour la France Inter, bienvenue à l'écoute du service public de radiodiffusion, une antenne où ensemble, chers auditeurs, nous pouvons, main dans la main, augmenter la dépense publique. Nous pouvons faire de grandes choses à partir par exemple de trois actualités. Le Portugal a refusé d'appliquer la politique d'austérité préconisée par Bruxelles. Cette insolence a payé, le Portugal enregistre une baisse du chômage, une baisse du déficit public et une hausse de la croissance. Hein, qu'est-ce qu'on dit de ça chez les libéraux?
Déjà, c'est un miracle qu'ils soient pas tous crevés.
Ok. Le Parlement en France a donné le feu vert pour privatiser Aéroport de Paris, la Française des Jeux et Engie. Nos espaces et services publics sont-ils amenés à être de plus en plus privatisés? Et est-ce qu'Aéroport de Paris, ce sera mieux géré qu'avant alors?
Vous prenez l'avion Paris-Nice 10 heures. Ce qui veut dire qu'il ne devrait pas décoller avant 13 heures.
Oui, parce que là, il est 11 heures.
Le nouveau prix Nobel d'économie, l'américain Paul Romer, goûte peu la formule « et en même temps » qui ponctue le discours économique de notre président. Le « et » occupe jusqu'à 7% des textes, nous dit le prix Nobel. Est-ce qu'au moins ça apporte un peu de nuance?
C'est un homme méchant et en même temps un petit pété. Bonsoir, monsieur.
Lui, il travaille pour le service public et en même temps pour Bolloré. Oui. Hashtag libéré Vizorek. Bonjour Alex.
C'est bien de varier le patronat. Et autour de la table, eh bien, comme chez Bolloré, eh bien, j'ai une belle équipe. Eh oui, j'ai une belle équipe. À 17h20, celui qui a posté une photo de lui tellement heureux du remaniement. Et je sais que c'est en partie la nomination d'Agnès Pannier-Runacher comme secrétaire d'État à l'économie.
Je suis sûr que ce sera enthousiasmé
Thomas VDB.
Oui, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Donc moi, aujourd'hui, on va parler d'Internet et on va parler de self-control. J'ai remarqué qu'on ne parle pas assez de self-control sur les ondes de France Inter. Internet, c'est self-control, c'est la page self-contraite de Thomas VDB.
À 17h30, évidemment, il est encore tombé en pleine contradiction aujourd'hui, puisqu'il est parti ce matin à la chasse aux chasseurs pour dénoncer la chasse. Guillaume Meurice.
C'est beau ce que vous dites. Bonjour à tous, je vais vous parler effectivement de la saison de chasse, parce qu'il se passe pas mal de trucs en ce moment. Je suis donc allé à la rencontre des chasseurs, dont certains d'ailleurs sont assez lucides.
C'est un petit peu sévère pour les animaux.
Oui, ils meurent, hein, donc je crois qu'on peut parler de sévérité. Quoi.
Et enfin, à 17h40, celle qui a raté le ministère de la Culture, car elle avait trop lu de livres. Autant vous dire qu'elle raterait aussi le ministère du Chablis. C'est Juliette Arnault, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Je me suis frottée à l'économie.
Oups, bah si c'est Charline et vous, on est tranquille.
Dites donc, voici celui qui va faire augmenter l'action de par Jupiter. Je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Thomas Porcher.
Yes.
Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Thomas Porcher.
Merci, merci de me recevoir.
Mais avec joie, le traité d'économie hérétique, pour en finir avec le discours dominant, c'est paru chez Fayard. Déjà, je vous l'annonce, j'ai tout compris immédiatement. Donc c'est très bien écrit, très bien expliqué.
Ça vous fait mal, hein, ça ?
Mise en perspective. Et mise en perspective historique aussi, qui permet d'éclairer beaucoup de choses. Alors, vous nous expliquez que le discours dominant en économie, c'est celui des économistes libéraux, qui se revendiquent du côté de la science et de ce qui est raisonnable, si je résume. Ouais. Alors, il y a très peu d'espace pour un autre discours économique, qualifié de gauche, qualifié d'utopiste, ouais, avec une petite note péjorative quand on dit utopiste, et même soupçonné d'idéologie et de militantisme. L'économiste libéral, lui, ne serait pas militant. Économiste libéral étant sans doute un pléonasme en ce moment. C'est ouais, un c'est peu ça, le postulat. Alors, vous apportez des contre-arguments à ce que vous appelez les refrains habituels, par exemple le danger de la dette publique, notre modèle est inefficace, etc. On va avoir l'occasion d'en parler pendant toute l'émission parce qu'on a choisi trois sujets économiques ou attenants. Et vous nous donnez aussi les clés pour voir les choses autrement. Alors, cette première question, vous êtes docteur en économie, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Non, pas du tout. J'ai eu mon doctorat à Paris 1 Sorbonne, je suis professeur dans une école de commerce.
Paris School of Business.
A tout compris.
Alors, je reprends
ma fiche. Alors, vous êtes en tout cas docteur en économie, donc de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette démarche de vouloir donner au grand public les clés pour réfléchir autrement l'économie, pour pouvoir dominer un secteur qui nous domine, dans le fond. Est-ce que c'est la même démarche que celui du fils d'ouvrier qui est né, qui a grandi à Saint-Denis, qui a passé son bac à La Courneuve et qui décide de se dédier à l'économie ?
Non, parce qu'on peut ne pas avoir grandi dans le 93 et être contre le discours dominant. Dans les économistes atterrés, il y a plein de gens qui ont grandi à Paris, il y en a même qui ont étudié aux États-Unis et qui reviennent et qui ont un discours qui va contre le discours dominant. Non, le truc, c'était que je me suis rendu compte que, en fait, l'économie n'intéresse pas grand monde. Enfin, je vous allez après 22 heures, si vous dites que vous êtes économiste dans un bar, on me promet que là, c'est fini, quoi. Faut dire essayiste, autre chose, mais économiste, c'est tout de suite, oula. C'est horrible. Non, mais vraiment, pour le coup, vous partez avec des points en moins. Et donc, c'est parce que l'économie n'intéresse pas grand monde que, justement, un mec comme Macron, il a présenté son programme économique très tardivement, un mois avant le premier tour. Il a fait un cadrage rapidement, j'économise 25 milliards sur la sphère sociale. Il dit pas où il coupe, hein, parce que 25 milliards sur la sphère sociale, c'est-à-dire, c'est énorme, hein, il va couper dans l'assurance maladie, dans l'assurance chômage, faut qu'il nous dise, le mec, comment il fait pour couper et où il va couper exactement. Il a rien dit, il a dit j'économise, on a dit il est très sérieux, c'est super, c'est passé, ça n'intéressait personne parce que c'est chiant à la base. Justement, c'est chiant. Et derrière, on vous sort des choses, des platitudes qu'on entend depuis 30 ans, il faut flexibiliser, on est des feignants en France, la dette c'est un gros problème, donc on n'a pas le choix. Et donc en même temps les gens se disent, bon bah il n'y a qu'une seule voie possible en fait, gauche, droite, ou ni de gauche ni de droite, c'est la même chose au final, il faut toujours aller dans un, il n'y a qu'une seule voie. Et moi je me suis dit non, c'est faux, quand on regarde l'histoire économique, il n'y a pas qu'une seule voie, quand on regarde ce qu'ont fait d'autres pays, il n'y a pas qu'une seule voie, et donc il faut donner des arguments comme ça aux citoyens pour qu'ils questionnent.
Voilà. Et l'histoire nous en donne, vous parlez par exemple de la dette qui était bien plus élevée au sortir de la guerre et qui n'a pas empêché de créer la sécurité sociale et d'investir dans le public et le social.
C'est ça. On avait une dette à 200% au lendemain de la guerre, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent et on s'est dit à un moment, c'est là qu'on a fait le conseil de résistance, on a fait la sécurité sociale, on a investi dans le service public, etc. alors qu'on avait une dette énorme. Et cette dette est passée en 10 ans de 200% à moins de 100%, pratiquement 60%. Et comment on a fait pour réduire cette dette? On a taxé les très hauts patrimoines. Et là, on fait l'inverse. On a taxé à des taux autres. On a fait un petit peu d'inflation et on a négocié avec les créanciers, en partie. Parce qu'on peut négocier quand même avec les créanciers. Voilà, donc la dette était un vrai problème à ce moment-là et on l'a réduite. Aujourd'hui, on me dit que la dette, c'est un problème. Donc c'est un problème, donc il faut couper dans les dépenses publiques, ça c'est sûr, il faut qu'il y ait moins de services publics, il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires dans les hôpitaux et ainsi de suite. Puis de l'autre côté, quand on baisse la fiscalité sur les plus riches, là la dette c'est plus un problème. On vous dit, ah non, on peut se passer de rentrée fiscale, vous comprenez, on va baisser 20 milliards sur les entreprises et les plus riches, mais là il n'y a pas de souci, la dette c'est plus un problème. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a une véritable géométrie variable dans le concept de dette.
Il y a un côté pragmatique sur le fait, si on diminue ça, les gens vont pas s'enfuir. C'est ça qu'ils mettent en avant, que faut que les Français restent en France pour payer leurs impôts ici.
Mais il y en a combien qui s'enfuient par an? Ça, c'est une vraie question.
La réponse est dans le livre, c'est beaucoup moins.
On vous dit que c'est la fuite, que tout le monde veut partir. Il y en a 500 qui partent par an.
Mais que Millier soit venu en Belgique et plein d'autres, il y en a eu.
Écoutez, il y en a 800 qui partent, 300 qui reviennent.
On parle pas de ceux qui reviennent.
Alors, 800 qui partent, 300 qui reviennent, ça fait 500. La perte, elle est chiffrée par Bercy. Parce que quand un mec part, il s'identifie tout de suite pour dire je ne veux plus payer l'ISF. Donc, voilà. Donc, ça a été chiffré. La perte, elle est grosso modo autour de 200. Sur 10 ans, elle a été chiffrée. Hein. Entre 200 et 250. Allez, on va prendre une fourchette large. 300 millions par an. Allez, là, je prends vraiment hyper large, disons. 300 millions d'euros de pertes dans les recettes budgétaires par an. Et là, la réforme, ça va être 4 milliards de pertes par an. Donc pour ne pas perdre 300 millions, on va perdre 4 milliards. Donc c'est un cadeau. C'est clairement un cadeau.
Concret.
Voilà. Vous expliquez aussi que l'économie n'est pas une science neutre. Est-ce que c'est vraiment une science exacte? Pas vraiment non plus.
Absolument pas.
Donc on n'est pas dans une science molle. C'est une demi-molle.
C'est une science humaine. Non mais c'est une science humaine. Donc il y a des rapports de force. C'est pas une science cumulative. Ouais. C'est-à-dire quand vous démontrez un truc. Enfin, ce qu'on a fait dans les années 70, pendant les 30 glorieuses, est complètement différent de ce que l'on fait aujourd'hui. Ce que l'on fait aujourd'hui, capitalisme un peu libéral, ressemble à ce qu'on a fait au début du 20e siècle. Donc vous voyez, il y a des modes. Il y a des modes de régulation, des modes de fonctionnement de l'économie qui dépendent des rapports de force en présence. C'est pas on prouve quelque chose et donc ça reste dans l'économie et ainsi de suite. Non, c'est pas du tout ça. Et par ailleurs, vous êtes même un citoyen, vous n'avez jamais fait d'économie, vous ouvrez Le Monde un jour, vous avez une tribune de très bons économistes qui disent « la loi travail va créer des emplois », puis le lendemain, vous avez d'autres très bons économistes qui disent « la loi travail ne créera pas d'emplois ». Donc même le citoyen, il se dit « oulala, il n'y a pas de consensus en économie ».
Thomas Porcher, le traité d'économie hérétique, pour en finir avec le discours dominant paru chez Fayard. Juliette y reviendra tout à l'heure. Restez avec nous, car France Inter, c'est aussi la musique. Choupidouap. Choupidouap, choupidoubidouap, choupidouap, 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 Nick Waterhouse, Leon Bridges sur France Inter. Il est 17h21 par Jupiter. Nous sommes en compagnie de Thomas Porcher, docteur en économie, qui publie le traité d'économie hérétique paru chez Fayard. Et pour entourer notre invité, Alex.
Eh bien, celle qui n'aime pas du tout Waterhouse, parce qu'une maison avec de l'eau, ça l'ennuie, c'est Juliette Arnaud. Et puis, il y a Thomas Vélévé et Guillaume Meurice.
Et voici le journal qui n'a d'approximatif que son horaire.
C'est vrai.
Qui saute pas n'est pas Macron.
Yeah.
Qui saute pas n'est pas
le journal. De presque 17h17.
Il faut le cueillir avant qu'il ne s'envole.
Et on commence par les titres.
Remaniement, voilà, c'est fait. Christophe Castaner devient le nouveau ministre de l'Intérieur.
La progression du gars, dans deux mois il est président.
Les États-Unis préparent un film sur Redouane Faïd.
Eh oui, le film va sans doute sortir sans prévenir. Il faudra retrouver dans quelle salle il est.
Et des brèves?
Pas de remaniement, on garde toutes les brèves. Et on commence par une éphéméride.
Oui, c'est aujourd'hui la journée internationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Exactement.
Je porte d'ailleurs un t-shirt de l'association Too Good To Go. Je vous dis le hashtag, c'est pas de gaspillage dans ma vie. Voilà.
Bim.
Oh la vache.
Alors, donc, concernant le gaspillage, j'ai promis de porter le t-shirt, ouais, voilà. Hop, j'espère... Caméra, radio filmée.
Si Jackie et Michel nous écoutent, envoyez des t-shirts. Hein, elles promettent d'être portées.
Donc, concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, une pétition a été lancée pour demander l'allongement des dates de péremption.
Allonger les dates de péremption, ça existe déjà et ça s'appelle la loi travail.
Politique, le remaniement donc était annoncé ce matin. Le gouvernement est recomposé.
Et c'est vrai que à l'époque où il y avait Gérard Collomb, il était plutôt décomposé. Mais
et voilà. C'est donc Christophe Castaner
oui,
à l'intérieur.
Ah là là là, ça se voit que Macron a vraiment cherché un mec dont les chances de démission sont en dessous de zéro, Christophe Castaner.
À l'agriculture, c'est Didier Guillaume.
Excellent choix, Didier Guillaume. Un ancien président du groupe PS Sénat qui, en janvier dernier, avait annoncé son retrait de la vie politique.
C'est un choix mûrement réfléchi, ça fait quelques semaines que j'y pensais. Ici même au Sénat, je me suis vraiment éclaté, c'était formidable. Mais j'ai pensé qu'à un certain moment, à mon âge, je pouvais tourner la page et faire autre chose, un nouveau challenge professionnel. Et c'est ce que je vais tenter maintenant de faire.
Eh oui, il a trouvé un nouveau challenge professionnel, travailler pour les lobbies agricoles.
Lobby encore, la directrice de la communication de Danone est nommée secrétaire d'État à la transition écologique.
Et je pense qu'ils avaient pensé à Richard Véranque au ministère des Sports, mais ils se sont dit c'est pour la prochaine fois.
Dopage toujours, à seulement 29 ans, Gabriel Attal bat le record du plus jeune ministre sous la 5e République. Il a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Eh oui, c'est cohérent, il vient de sortir du collège, il connaît bien la jeunesse.
Voilà. Autre événement de la journée, oui. Jean-Luc Mélenchon a filmé en direct une perquisition à son domicile.
Et oui, le leader de la France Insoumise est visé par deux enquêtes.
L'une sur ses comptes de campagne, l'autre sur de présumés emplois fictifs au Parlement européen.
Oui, alors apparemment pendant la perquisition, les enquêteurs n'ont retrouvé aucune trace d'humilité de Jean-Luc Mélenchon chez lui.
Judiciaire encore, oui. Les époux Balkany seront jugés au printemps prochain pour fraude fiscale.
Et c'est bien le printemps, comme ça ils pourraient être à l'ombre dès l'été.
Dans l'enseignement, un élève de CE1 sur 2 a des difficultés en calcul mental.
Et donc ça veut dire que 2 sur 3 n'ont aucun problème.
Oui, bah des problèmes qui clairement ont des répercussions à l'âge adulte.
Et c'est logique puisque 2 plus 2 font 5.
Voilà. Passons au sport.
Alors attention, avec cette intéressante analyse de Denis Balbir. c'est prometteur, hein, toujours. On lui a demandé ce qu'il pensait de faire commenter les matchs de football par des femmes.
Je suis contre, pourquoi? Parce qu'une femme, elle ne pourra jamais avoir un timbre de voix ou je sais pas, dans une action de folie, elle pourra jamais avoir, elle va monter dans les aigus.
Ah, Denis, fais-moi monter dans les aigus.
Une réaction, Juliette Tarlot?
Mais il est débile, lui. Sérieux? Il est sérieux, lui.
Voilà, hein, il est peut-être pas entièrement tort, mais il s'attendait un petit peu à vos analyses.
Je sais qu'on va me traiter de misogyne, de sexiste, et tout ça, parce que je dis ça. Et brutalement, c'est la vérité, ça serait vrai.
Ça serait vrai. En fait, le coup des aigus, c'était une connerie, c'est juste de la misogynie. C'est vraiment, il tenait à le préciser.
Moi, les brèves, ça me fait monter dans les aigus.
Oh, attention. Pérou, le maire d'un village a été élu à pile ou face. Heureusement que Serge Dassault est décédé, ça leur a fait un choc de savoir qu'on peut gagner une élection avec une seule pièce.
Et la dernière,
un Américain de 22 ans est poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles avec le pot d'échappement de sa voiture. C'est honteux, les jeunes, l'écologie, on privilégie les relations avec des trottinettes électriques.
Merci Alex. Vous écoutez Par Jupiter. Si vous nous rejoignez, n'ayez pas peur. Faites-nous confiance, nous sommes en compagnie de Thomas Porcher, l'économiste.
Aigus,
alors après, pardon?
Vous êtes dans les aigus.
Désagréable.
Je vais essayer
de graver. Après 3 ans d'austérité, voilà. Le Portugal a décidé de faire le contraire de ce que préconisait Bruxelles. Et depuis, bien, le pays va beaucoup mieux.
Y'a miracle ici, oh mon ami, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens. Y'a miracle ici.
Petite chanson évangéliste, car nous évangélisons aujourd'hui à l'économie plutôt de gauche. Alors, c'est un gouvernement socialiste qui est soutenu par la gauche radicale et les écolos qui n'ont pas voulu aller au gouvernement mais qui soutiennent, qui sont au Parlement. Et voilà, et au bout de 3 ans d'austérité, ils ont dit stop, on va prendre un autre chemin qui est conforme à celui que vous proposez finalement, Thomas Porcher. On va mener une autre politique économique. Alors, c'est un très bel exemple de politique donc à contre-courant du discours dominant, et pourtant, vous n'abordez pas le sujet du Portugal dans le livre. Pourquoi ? Et est-ce que le Portugal est un bon exemple de ce que vous expliquez ?
Oui, c'est un bon exemple. Moi, je veux aller encore plus loin, en fait. Mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire que j'avais fait une tribune pendant la présidentielle où je demandais l'alliance de Jadot, Mélenchon, Hamon pour un seul candidat. J'avais fait ça avec Varoufakis, d'ailleurs.
Ça a bien marché.
Belle réussite.
Il y a eu d'autres tribunes qui ont été signées par d'autres. Il y en avait 3, mais ça n'a pas du tout marché. Voilà. On a vu le résultat. Mais voilà, je voulais, pour briser justement la logique austéritaire qui touche la France et qui la touche moins fortement que le Portugal, mais qui la touche quand même, puisqu'on est dans une logique d'économie et de suppression de postes de fonctionnaires. Et le Portugal, lui, l'a vécu très sévèrement. En Espagne, Portugal l'ont vécu très sévèrement. Et puis à un moment, ils se sont dit, bon, vraiment, les résultats ne sont pas là. Tout le monde souffre. Donc, on va stopper cette logique, ce que vous avez dit. On va augmenter le salaire minimum. On va arrêter de baisser le nombre de fonctionnaires. Juste stopper la logique. Et ça a été mieux. Mais le Portugal n'est toujours pas sorti de la crise. Hein. Mm-hmm. Il est toujours plus pauvre qu'avant la crise. 10 ans après, toujours plus pauvre qu'avant la crise. Donc ça va mieux, ça va beaucoup mieux que l'austérité, mais il n'est pas sorti complètement de la crise. Moi, je pense qu'il faudrait, par exemple, sur l'investissement public, il pourrait aller beaucoup plus loin, quoi. Faire vraiment... Là, pour l'instant, c'est mieux qu'avant, il change de trajectoire, mais on n'est toujours pas revenu dans le meilleur des mondes.
Mm-hmm. Et puis, il y a des aménagements fiscaux, est-ce que ça aide, ça? Parce qu'on a entendu parler ici avec Florent Pagny, on salue Eric Cantona aussi, installé à Lisbonne.
Mais... Ah, je ne savais pas ça me déçoit. Ça,
il ne voulait pas vous en parler.
Ah non, ça, là-dessus, je ne savais pas. Florent Pagny, je savais.
C'est pour le climat.
J'en ai parlé dans le livre, d'ailleurs. Oui. Florent Pagny, parce que je trouve que. Mais Cantona, ça me déçoit fortement.
Mais est-ce que c'est la faute à Florent Pagny, sans doute, entre autres, ou au Portugal, qui fait une loi quand même tout à fait étrange sur les droits intellectuels? Si vous arrivez pendant 10 ans, vous ne payez pas d'impôts. C'est pas très fair vis-à-vis du reste de l'Europe.
Non, mais l'Europe, ils se sont mis dans une concurrence fiscale. Tous les pays, le Luxembourg a baissé sa fiscalité, l'Irlande a baissé sa fiscalité, le Portugal. Donc là, il y a une vraie question sur l'Europe. Est-ce qu'on est des partenaires ou est-ce qu'on est des concurrents? Ça, il faudrait la poser. Mm-hmm. Parce qu'on peut dire, oui, j'aime l'Europe comme ça. C'est simple de dire, j'aime l'Europe. Et puis après, je baisse la fiscalité pour prendre des parts à mon voisin. Sur Florent Pagny. Florent Pagny, il devrait se rappeler quand même que quand il a fait ses tournées, ses infrastructures, ses routes ont été payées en partie par les impôts. Les salles qui l'ont accueilli parfois étaient moitié publiques ou pas. Voilà, et ainsi de suite. Les radios publiques qui l'ont joué. Les lois françaises qui ont permis d'avoir un quota de musique française pour pas qu'il se fasse bouffer par Puff Daddy, tout ça l'a permis de gagner beaucoup d'argent. C'est normal qu'il en reverse une petite partie, c'est normal. Absolument. Donc quand il voit Portugal, moi je pense qu'il faudrait que les gens arrêtent de l'écouter, tout simplement, parce que c'est pas les Portugais qui vont acheter ses disques.
Il y avait déjà eu une démarche
inversée. Et vous dites...
Il y a aussi une raison musicale.
C'est vrai, vous dites notamment, toute réussite individuelle est collective, et on y pense aujourd'hui avec la mort du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, qui n'aurait pas pu être Paul Allen et faire tout ça s'il y avait pas tout le système américain derrière. Et j'ajoute, pour parler de ce modèle portugais qui vient à l'encontre du fameux modèle allemand dont nous serine souvent, vous expliquez à un moment, vous parlez du consensus de Washington, où le FMI, la Banque mondiale et les universités américaines prestigieuses pondent un modèle pour aider les pays en voie de développement, et que les deux qui s'en sortent, ce sont justement ceux qui n'ont pas suivi les préconisations, la Corée du Sud et la Chine. La Corée du Sud, qui sans ça n'aurait pas construit Samsung et Hyundai. Voilà pour la perspective aussi historique qui vient expliquer appuyez vos arguments, Thomas Porcher, dans Traité d'économie hérétique, paru chez Fayard. Et j'ai vraiment tout compris, donc je suis hyper fière de moi.
Prof d'économie, je vais
en parler.
Thomas VDB.
C'est moi. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Que je vais regarder des vidéos sur YouTube. J'imagine une belle intro, hein. Je vois qu'il y a marqué déjà l'histoire de l'actuel physique.
Ça me fout les poils.
Alors j'imagine que tout le monde a lu l'article qui vient de paraître, qui dit qu'on passe trop de temps sur nos téléphones portables. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, vous avez tous déjà lu un article qui dit qu'on est trop sur nos téléphones portables. Peut-être vous l'avez lu en 2016, en 2017, en 2018. Enfin, vous en avez lu au moins un. Voilà, n'importe lequel. Et ben, ça tombe bien parce que je vais vous raconter un truc qui fait très précisément allusion à cet article. Parce que moi, je suis à fond dans l'actu, comme vous savez. Parce que j'ai fait une mise à jour de mon téléphone la semaine dernière. Et il y a 3 jours, j'ai reçu une notification qui me dit combien de temps j'ai passé exactement sur mon écran. Et c'est vraiment un petit graphique qui est fait. Alors vraiment, c'est horriblement bien fait. Alors vraiment, c'est malheureusement très facile à comprendre. Vraiment, c'est tellement clair à lire que tu as presque envie de pleurer. Alors donc, un grand merci à tous les GoFio, enfin les GAFA, Google, Apple, Facebook, qui ont décidé donc de mettre à disposition ces chiffres pour aider les drogués, enfin les utilisateurs que nous sommes, à mieux gérer leur temps sur les réseaux. Et là, je me dis, enfin, une application finalement pensée pour moi. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, depuis toujours, je suis toujours un peu jaloux. C'est vrai que des gens qui font de la course à pied, et vous savez, ils ont un sac banane pour leur téléphone autour du bras et ils postent le résultat sur les réseaux avec des applications genre Run Static ou sur Facebook, il y a marqué Jean-Jacques a couru 8 km en 15 minutes et on peut voir son rythme cardiaque. Et j'ai l'impression que quelque part, c'est un peu une façon de dire à tous ses amis Facebook, je sais pas si vous avez couru aujourd'hui, en tout cas, moi, oui. C'est un peu humiliant. Et ben, la nouvelle mise à jour Facebook, c'est pareil, mais c'est pour les gens qui font pas de sport. C'est une sorte de canapé statique. C'est canapé statique. Il y a plein de camemberts. Il y a plein de courbes. Il y a des graphiques qui t'aident vraiment à comprendre ta oisiveté. Vraiment qui t'aident à mieux chiffrer la vacuité générale de toute ta vie. Hein. Alors, on peut savoir tout ce qu'on a fait sur son canapé ces 7 derniers jours. Alors ça, c'est chouette, hein, parce que combien d'heures t'as passé sur Internet, t'as regardé des vidéos, combien de temps t'as passé sur tel site. Et moi, je trouve ça chouette d'avoir tous ces chiffres, parce que j'ai ma petite revanche sur Jean-Jacques. Moi aussi, je peux poster, Thomas a passé 16 heures sur Instagram ces 10 derniers jours. Eh, Jean-Jacques, t'es pas le seul à faire des perfs. Et puis, on peut enfin contrôler toute sa consommation. On peut enfin, voilà, parce qu'on peut tout paramétrer. Donc, ça devient un peu le tableau de bord de ton centre de désintoxication. Et ça, c'est bien, parce que, et là où c'est bien pensé, c'est que tu peux tout le contrôler entièrement depuis ton téléphone. Et ça, c'est quand même astucieux. Parce que je me dis, pourquoi ils les donnent finalement ces informations, les GoFast, enfin les GAFA. Je me dis, ils pourraient les garder pour eux. C'est vrai, c'est bizarre comme attitude. C'est un peu comme si, admettons, t'es fan de Facebook, par exemple. Admettons, dans ta chambre, t'as des grands posters de pouces. Et bon, voilà. Et donc, et là, en fait, là, t'as Facebook qui te dit, écoute, je sais que t'es fan, mais tu passes trop de temps avec moi. Et c'est vrai que c'est chelou. C'est comme si, par exemple, t'es fan de Cure et un jour, il y a Robert Smith, le chanteur. Il vient te voir pour te dire, écoute Thomas, on sait que t'aimes bien nos chansons, mais là, faut que t'arrêtes de venir à nos concerts. Alors j'avoue que si c'était Robert Smith en personne qui venait me le dire, je pense que je serais suffisamment flatté pour que ça me dérange pas de plus le voir en concert. Thomas, on veut plus de toi à nos concerts. Ben franchement pas grave du tout. Ça fait plaisir que tu te sois déplacé pour venir jusqu'à moi pour le dire. Franchement, les concerts, pas grave, je regarderai sur Internet. Hein. Voilà, et en tout cas, je pense que les GAFA, ils font aussi ça parce qu'ils en ont marre, à mon avis, franchement, de collecter des données sur des gens qui décollent pas leur nez de l'écran. C'est vrai que tu te mets à leur place au GAFA, ça va être quand même un peu mieux d'espionner des gens qui font des vrais trucs dans la vie. Hein, je sais pas s'il y a un mec chez Google qui est en charge de m'espionner sur l'appareil photo de mon téléphone, ces journées doivent être assez longues.
Merci.
Et surtout, j'arrive tout de suite à la fin. Mais merci pour ce merci, un grand merci pour ce merci.
Elle en a marre.
C'était merci en général.
Mais oui, merci de la vie sur son téléphone.
Je sais pas, il y avait une espèce de respire.
Elle était mal faite, j'avoue. Mais surtout, ça permet à ces marques de faire croire qu'elles sont préoccupées par notre bien-être. Et ça, c'est bien. C'est comme quand McDo, ils veulent nous rassurer en disant, les vaches de la pub, c'est les mêmes qu'il y a dans nos stacks en plastique, hein, voilà. Et on est bien conscient que vous infligez des milliers de cancers depuis 40 ans. On savait que c'était pas bien, mais on préférait faire comme si on savait pas. Là, on sait vraiment que c'est pas bien. Donc, promis, on le fera plus. Allez, moi, maintenant, je vous laisse. Il faut que j'aille classer mes pièces jointes par taille.
C'est là.
Allez-y.
C'est là.
Merci beaucoup, Thomas BDV. Mais vous avez tellement ri qu'il y a eu un espace de rire comme
même
ça.
Même Frédéric Lopez, qui n'écoutait pas du tout, il lui a jamais fait celle-là. Ouais, c'est l'arrêter au milieu.
Ouais, riez au début, après le sujet.
Il y avait comme une infrachute. Merci Thomas VDB. On peut vous réécouter en intégralité sur franceinter.fr et sans doute sur notre page Facebook d'ailleurs. Vous pourrez passer du temps. Thomas Porcher est en notre compagnie. Allez, je me remets de mes émotions avec Voodoo Game. Allez, vous êtes sur France Inter.
Allez, maman, allez, bien, à béton.
Tata Fatigué qui envisage un prochain duo avec Annie Cordy, Tata Yo-Yo Fatigué.
C'est brillant, c'est brillant.
Tout le disque.
Écoutez, par Jupiter.
On ne savait pas pourquoi elle ne parlait pas pendant le disque. Et en fait, elle cherchait cette blague.
Thomas Porcher, économiste atterré, nous ne l'avons pas encore dit, Thomas Porcher est avec nous.
Et d'ailleurs,
les économistes atterrés publient ensemble un ouvrage.
Ouais, j'ai écrit dedans.
Hein, allez-y.
Qui s'appelle Macron, un mauvais tournant. Mmh. Ah ouais, on est une dizaine à avoir écrit dedans.
Qui est paru chez
Les Liens qui Libèrent.
Voilà, ouais, Les Liens qui
est sorti la semaine dernière.
C'est relativement plutôt favorable à Macron.
Exactement. Exactement. Ouais, là.
Il y a Thomas VDB, Juliette Arnaud qu'on attend sur l'ouvrage de Thomas Porcher et Guillaume Meurice.
Oui, je vais vous parler de la chasse aujourd'hui, puisque la saison de la chasse s'est ouverte, notamment la chasse aux cyclistes. Hein, on l'a vu dans l'actu récente. Il faut dire que le cycliste est un gibier assez con, il faut le reconnaître. Déjà, le camouflage est nul. Hein, un legging fluo en pleine forêt, c'est quand même pas terrible. Et il est assez peu farouche. Hein, vous pouvez l'appâter avec des barres énergétiques et de l'isostar. Il se cuisine en gigot, quand même, je préfère le préciser. Prenez du cycliste amateur. Hein, le cycliste pro est bourré de médicaments. Alors, ça arrive aussi que le chasseur tire sur des animaux, mais ça, je dirais, c'est un petit peu au pif. Parce que vu la moyenne d'âge de ceux que j'ai rencontrés ce matin, j'ai aucun mal à imaginer qu'ils confondent un écureuil avec Louison Bobet. Parce que oui, je suis allé à la rencontre des chasseurs ce matin devant des magasins spécialisés en posant donc la question qui fâche, hein, puisque le débat est relancé. Est-ce qu'il faut interdire la chasse?
Sûrement pas, non?
Non.
Ah, mais après, c'est les conditions quoi, de chasse. Hein, quand je vois qu'il y a des mœurs, ce qui a toujours été le cas, je dis, le gars il dit j'ai tiré sur un sanglier, quand c'est un cycliste, c'est embêtant quoi.
C'est un peu embêtant, oui.
Voilà, c'est tout.
C'est embêtant pour le cycliste, quoi.
Oui, c'est embêtant pour le cycliste, voilà.
Bah, c'est vrai que le décès, c'est toujours quelque chose d'un peu relou. Hein. On s'en remet vraiment jamais, hein, en fait. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui va nous dire « Ouais, mais il y a une vie après la mort, regarde Jean-Yves Le Drian. Bah, » ouais, mais bon, c'est quand même embêtant. Je dirais que voilà, le chasseur a raison. Voyons avec un autre qui est, je dirais, même encore plus philosophe.
Bon, ben bah, voilà, c'est la vie du métier. Hein.
C'était pas son métier, cycliste. Il était juste là.
Oui, il était juste là, enfin bon, quand vous entendez coups de feu, généralement, vous éloignez, bon, faites attention, mais c'est crétin.
C'est un peu de sa faute alors, cycliste.
Un peu, ouais.
Bah, ouais, le gars, il fait du vélo dans la forêt, il cherche un petit peu la merde quand même.
Hein. S'éloignez vite, parce que la balle, elle va vite.
Bah, bien sûr, dès que vous entendez du bruit, hop, un petit sprint, hein, voilà. La forêt, c'est fait pour faire des lâchers d'animaux d'élevage et les tirer à bout portant. C'est pas pour des gens qui sont incapables de sortir de chez eux sans un gilet pare-balles, putain. Bon, et puis alors, attendez, parce qu'il y a un autre chasseur qui a tenu à me signaler quelque chose.
Signale que quand même, quand on se balade dans la forêt, quand il y a chasse, et quand on chasse dans sa propriété, nous avons l'obligation, et si nous ne le faisons pas, nous avons des amendes tout à fait conséquentes qui peuvent aller jusqu'au retrait du permis, c'est de mettre des pancartes qui annoncent qu'il y a chasse.
Oui, mais la balle, elle ne sait pas qu'il faut s'arrêter à la propriété.
Non, je n'irai pas jusque-là quand même, parce que quand on tire en général en voyant où ça va.
Alors, c'est le en général qui m'a inquiété dans la phrase, que le en général, c'est entre 10 et 20 morts par an en France, une centaine d'accidents. Hein, c'est comme confier un enfant à un prêtre. En général, ça va. C'est le en général en fait qui pose problème, hein, qui est flippant. Mais attention, on n'est pas là non plus pour éluder les situations particulières.
Alors, ce qui peut arriver, c'est vrai, ça arrive, c'est que votre balle, elle peut tomber sur un galet, puis ricocher à 90 degrés. Ça arrive.
Ah oui, merde.
Comme ça, ouais. J'ai eu une balle qui est allée dans une buanderie.
C'est hyper marrant. C'est génial, le coup de la balle dans la buanderie. Ça devait bien le calmer, le sanglier. Là. Ceux qui nous écoutent, les sangliers, c'est pas la peine d'aller se planquer dans le sèche-linge ou entre la soupline et la lessive. Ça va ricocher dans vos museaux. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est rigolo. Il faut finir avec l'idée de la chasse. C'est dangereux, tout ça. Il y a pire.
Je pense que dans l'année qui vient, il y aura plus d'accidents de trottinette à Paris que d'accidents de chasse. Parce que rien que pour venir depuis chez moi, j'en ai évité deux de justesse.
Avec le même nombre de morts, vous pensez?
Ah non, ça ira peut-être pas jusqu'au mort, mais pour une personne comme moi, ça peut vous handicaper à vie, ce qui est pas mal.
Et oui, ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas de ça. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que dans les médias, c'est bourré de gens qui font de la trottinette.
Regardez,
Vizorek, voilà, entre chez lui et la maison de la radio, hein, on ne saura jamais combien il a renversé de personnes. Combien il y en a qui sont devenus tétraplégiques. Assassin.
Pardon.
Voilà, baissez la tête. Voilà, je me calme parce que j'ai l'impression d'être Jean-Luc Mélenchon devant une perquisition. Bon, j'ai pire comme révélation. Les accidents de chasse, c'est quoi?
Souvent, c'est des crimes. Hein.
Ah, c'est des crimes déguisés?
Ah oui, souvent dans les films, on voit des scènes de chasse, c'est toujours des crimes.
J'avais pas pensé à ça.
Moi, je regarde une série qui s'appelle Rex. Ça vous dit quelque chose?
Ouais,
non.
Je vois.
Bon, Rex, souvent, vous avez des situations comme ça. Un gars qui tue un type pendant la chasse pour ça, et qui s'arrange pour éliminer un concurrent, par exemple.
Et alors, on n'avait pas pensé à ça. On a regardé qui était le cycliste, là. Ouais, mais on a une police judiciaire qui regarde par Rex. Chien flic, hein. Rex, chien flic, je précise quand même le titre en entier. Bon, rendez-nous Benalla, là. Au moins, les enquêtes, elles allaient plus vite. Bon, il est temps de conclure avec ce même monsieur. Faut-il donc interdire la chasse?
Interdire, non, bon, je pense pas. Enfin, c'est une passion.
C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur?
Bah, le bon chasseur, c'est celui qui se trompe pas.
Voilà, alors pour pas vous tromper, si vous voulez tirer sur des humains, choisissez au moins un autre chasseur. C'est le seul moyen que vous ayez pour réguler votre propre espèce et mériter enfin le titre de premier écologiste de France.
Guillaume Meurice, rappelons que ces gens vivent parmi nous et qu'ils votent, hein, parce qu'on rigole beaucoup. Mais
et qu'ils
après,
sont
quand on,
armés.
Quand on se rappelle de ça, c'est...
Ils ont le droit d'avoir une arme.
Et nous, non seulement on n'est pas armés, mais en plus, on ne sait pas tirer.
Exactement.
À 17h43 sur France Inter avec Thomas Porcher qui publie un traité d'économie hérétique. L'hérétique étant avec nous, on va en profiter car le public est de plus en plus privatisé. Bientôt ce sera au tour d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie car le Parlement a autorisé l'État à vendre ses parts. La nouvelle loi proposée par Bruno Le Maire, la loi Pacte, permet à l'État de vendre tout ou partie de son capital dans certaines entreprises. Jusqu'où cela peut-il aller ?
Je sais que vous aimez Vincent, mais c'est qu'un mauvais moment à passer. Et puis, le peuple vous verra un peu au moins.
Il n'y a plus de peuple aux exécutions. C'est fini, ça. Maintenant, c'est privé. Léo Dagan, Lancelot, Père Blaise.
Oh, ben non. J'avais choisi ma toilette, tout. Je me faisais une joie de sortir.
Et voilà, c'est triste. C'est Kaamelott, la série d'Alexandre Astier, avec ici la reine Anne Girouard. Alors, concernant ces privatisations, où l'État recule dans ses parts, Aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit « L'État doit cesser de se comporter en rentier ». C'est vrai ?
Non, c'est plutôt bien alors là, puisqu'on vend des choses en plus qui rapportent énormément à l'État. Donc là, c'est bizarre, on se sépare de ce qui rapporte et puis on va garder le reste. Et puis après, on va dire que bon, on n'a plus d'argent pour entretenir le reste. Et puis à la fin, on donnera les retraites, 300 milliards. Les retraites, c'est 300 milliards. Bon, on les donnera au fond à des fonds d'assurance, mm-hmm. c'est très bien.
Privé aussi,
puis après, on dira, tiens, l'hôpital, c'est tant, donc on les donnera pareil au privé. Donc non, il y a un vrai problème. Et puis surtout, vous savez, encore une fois, ils disent qu'ils font ça pour rembourser la dette. Alors, ils viennent de baisser de 20 milliards, enfin, on rentre dans des trucs un peu techniques, mais ils viennent de baisser de 20 milliards la fiscalité sur les entreprises les plus riches avec la flat tax et la réforme de l'ISF. Puis maintenant, ils disent, il nous faut de l'argent, donc on revend des choses qui appartiennent au patrimoine public pour rembourser la dette. Donc c'est quand même, c'est presque un transfert de propriété finalement, autant le vendre carrément, comme disait Piketty, autant le donner aux plus riches directement à l'aéroport de Paris pour baisser la fiscalité. Non mais voilà, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Et puis vous savez, notre dette, elle est soutenable, elle est énorme, mais elle est soutenable parce que de l'autre côté, on a un patrimoine public qui couvre à peu près cette dette. Or là, on baisse ce patrimoine public.
C'est-à-dire tout l'immobilier plus les parts de l'État dans les entreprises.
Voilà, exactement, les parts de l'État dans les entreprises qu'on va pas revendre pour rembourser notre dette, mais qui garantit la soutenabilité, ce qui est différent, la soutenabilité de notre dette. Parce que l'important pour un État, c'est que ce soit soutenable une dette, c'est pas de la rembourser. On n'est pas, enfin, vous voyez, un État ne meurt pas, donc parfois il met 2 siècles à rembourser des dettes, enfin, il n'y a pas de souci. Hein.
Oui, c'est pas comme une personne physique,
c'est pas comme
dont
une
on
personne
dit,
physique
il va
qui a une espérance de vie de 75 ans, voilà. Et c'est pour ça qu'on fait des prêts tous sur 20, 25 ans et pas sur des siècles. Mais ce patrimoine public, là, on est en train de l'appauvrir. Et ça devient très dangereux, justement, pour la soutenabilité à long terme de notre dette. Donc c'est très grave, surtout qu'on vend les choses qui rapportent, puis on les vend à qui, ça profite à qui? C'est ça la vraie question qu'il faut. À des grands groupes privés, là, Vinci se positionne pour acheter l'aéroport de Paris, qui est un monopole, en fait, parce qu'il n'y a pas de concurrent. On a vu aussi les effets que ça a fait quand on a privatisé les autoroutes. Finalement, on a transféré de la richesse au secteur privé. Et les tarifs autoroutiers ont augmenté, les gens sont obligés de prendre l'autoroute, donc sont obligés de passer par là. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'un capitalisme un peu de connivence entre le politique, finalement, qui sert presque l'entreprise privée. Ça, c'est assez dangereux, je trouve. Parce que le patrimoine public nous appartient à tous, en fait. Oui. Donc,
Et vous nous donnez des clés pour le défendre avec des arguments comme ceux que vous venez de nous donner.
Mais oui, les aéroports de Paris, c'est une cash machine. Les autoroutes étaient une cash machine à l'époque.
La Française des Jeux est une cash machine. Elle finance le sport.
Voilà. Et déjà, elle fait... Enfin, on peut la critiquer, hein. Elle est déjà très attractive, etc. Mais quelque part, ça reste entre les mains de l'État. Mais si demain, c'est entre les mains d'intérêts privés où on doit rémunérer un actionnaire qui demande plus que l'État, ben il est possible qu'on fasse des jeux beaucoup plus attractifs, etc. Et qui vont rendre les gens beaucoup plus dépendants, effectivement, des jeux. Ce qui est déjà le cas quand ça appartient au public, hein, parce que le public n'est
vous
pas.
Vous donnez des arguments intellectuels pour dire c'est pas bien, mais concrètement, ils font ce qu'ils veulent en fait. S'ils ont envie de les vendre, il y a pas une loi, il y a pas quelque chose dans la Constitution qui leur interdit.
Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on appauvrit en fait. Mais... Non, mais on appauvrit ce qui appartient à l'État et on enrichit de l'autre côté le secteur privé. Enfin, aujourd'hui, le patrimoine privé, c'est 6 fois plus que la dette. Donc c'est déjà énorme. D'année en année, on a vu le patrimoine public, ce qui appartient à nous tous en réalité, diminuer de plus en plus et le patrimoine privé s'enrichir complètement. Sauf que le patrimoine public, il est plus égalitaire. Le patrimoine privé, il appartient à plus de personnes. Il y a une plus petite nombre de personnes qui détient ce patrimoine privé que les autres. Donc voilà, on fait un transfert clairement de propriété aux gens qui sont les plus riches. Et donc ça c'est un vrai problème démocratique.
Thomas Porcher, Juliette Arnaud a lu votre traité d'économie hérétique. Vous avez tout compris aussi.
J'ai tout. Enfin, il m'a semblé que j'avais tout compris.
C'est plus honnête.
Non, je préfère la voie d'humilité sur ce coup-là. Alors, Far Far Away, il y a longtemps, bien longtemps, on triait les adolescents de la sorte. Les intelligents, on appelait ça l'élite, ils allaient en S. Là, on est dans les années 80. Les autres, mais surtout les filles et quelques téméraires, allaient en A. Les playboys en G. Et en B, il y avait ceux qui n'arrivaient pas à choisir, alors ils allaient en B. B comme économie. Oui, on est comme ça, nous les Français, on est le pays de la raison et du rationnel. Économie, on appelle ça B. Moi, j'y étais, en B, et comme l'auteur, je l'affirme, comme Thomas Porcher, je l'affirme, quand on était en B, c'était pas par hasard, c'est qu'on n'était pas assez malin pour aller en S. En S, comme science. L'économie...
En C même, non ? Ça peut passer.
Donc, première S d'abord, et après terminale C.
Pas mal.
Ou D.
Oui, il y avait même le D, ouais.
Oui, les D, c'était la bio, c'était les un peu crétin.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, l'économie n'est pas une science exacte, c'est QFD. Et ça, c'est le point de départ de Thomas Porcher. Je vous cite, en réalité, il y a rarement de consensus en économie, et lorsqu'il y en a un, trois petits points, mieux vaut être sur ses gardes. Or, en gros, la doxa économique commune, rabâchée jusqu'à l'écœurement, c'est, deux points ouvrez les guillemets, le marché sait ce qu'il fait. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, les analystes économiques d'offrir des réponses d'une part et d'autre part. Ce qui faisait dire à Truman, le président, pas le personnage de film, lassé des analyses en même temps, bisous Manu, qu'il voulait qu'on lui présente un économiste manchot. D'où le traité d'économie de Thomas Porcher qu'il qualifie dès le titre d'hérétique. L'hérétique est celui qui s'inscrit dans le refus de l'orthodoxie. Alors c'est d'abord dans le domaine religieux qu'on a longtemps réglé en foutant le feu aux hérétiques. En économie, c'est pareil. Moins le feu, hein, parce que ça, c'est interdit désormais. Même Dominique Seux, par exemple, il n'a pas le droit de foutre le feu au Thomas, que ce soit Porcher ou Piketty. Vous voyez comment on dérive ? L'économie n'est pas une science, ok. L'économie n'est pas une religion non plus, ne doit pas en être une. Et c'est dans l'air du temps de ceux qui réfléchissent à cette chose qu'on appelle la gauche. Ainsi, récemment sur notre antenne, il y a quelques jours, j'ai entendu Raphaël Glucksmann dire « la gauche s'est convertie ». Ça aussi, c'est le champ lexical de la religion. Et pourquoi elle fait ça, la gauche, au fait ? Selon Raphaël Glucksmann, et je le cite, « c'est pour un confort de classe ». Et hop, rebelote, on est dans l'économie. Alors c'est quoi le but de l'auteur ? Eh ben c'est de réarmer le citoyen dans le domaine du savoir économique. C'est-à-dire moi, vous, tout le monde. Par exemple, arrêter avec le mythe de la réussite individuelle. En gros, ça se résume par le petit pourcentage d'individus qui s'accapare la majorité des richesses a intérêt à faire croire qu'il le mérite. Que même Groucho Marx avait travesti en disant « je suis parti de rien, je suis arrivé à rien ». Mais je l'ai fait tout seul. Ça a l'air d'une blague, mais c'est pas seulement ça. Parce que Groucho, il se moquait aussi de ce mythe. Parce que même pour arriver à rien, Groucho, il l'avait fait en équipe, avec ses frangins, Harpo, Goumo, Chico et Zeppo. Amis auditeurs, je vous fais une promesse. Une fois que vous serez réarmés, avec ce livre. Vous allez la gagner, l'engueulade de la Noël. Mais si, vous voyez, celle que d'habitude tu perds, parce que t'as pas forcément la réplique. Ah, ah, tu l'as voulu ton Macron, c'est bien fait pour ta gueule. Et là, tu sais que vous vociférez. Mais merde, c'était au second tour, parce que j'ai peur de Hitler. Mais qui a son pendant, qui est encore beaucoup plus dangereux. C'est le moment où le mari de ta sœur, qui a fait une école de commerce, te balance du chiffre comme s'il les fabriquait. Hein? Alors là, tu te fais ta petite fiche de récap et tu lui mets la grêle. Sur son terrain, à lui. Il est humilié, ta sœur le quitte, et à Noël prochain, fini, nini, l'engueulade de Noël. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, votre livre, Thomas Porcher, est paru chez Fayard.
Et joyeux Noël, toute la famille, chez vous.
Allez, le nouveau prix Nobel d'économie, l'américain Paul Romer, alors ils sont deux, hein. il y a Paul Romer et William Nordhaus, mais Paul Romer, lui, a jeté un froid dans les rangs de la Banque mondiale, où il était chef économiste, lorsqu'il a menacé de censurer les études qui comportaient trop de fois la conjonction et. Le et pollue les discours et les écrits, dit-il, il dilue le message et. Il permet de ne pas se mouiller surtout. Alors autant vous dire que le Nobel d'économie goûte peu le et en même temps d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas Juliette, démonstration des méfaits du et dans le langage.
Camarades, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, voilà.
Gérard Darmon dans Astérix, Mission Cléopâtre. C'est vrai, c'est une mauvaise habitude d'économiste. Vous comprenez ce qu'il veut dire, le nouveau prix Nobel d'économie ?
Oui, alors bon, ce prix Nobel, c'est, on va dire que c'est le moins pire des économistes, parce qu'il a bossé sur le climat, etc. Donc certains s'en sont félicités, même des économistes atterrés. Mais il reste quand même quelqu'un qui, dans sa tête, a un modèle de croissance infini sur plusieurs années. Hein, il vous le dit, même dans une interview, sur des milliards d'années, il voit que la croissance peut continuer. Et donc c'est quelqu'un qui reste quand même centré sur le fonctionnement du marché, l'économie mainstream.
C'est une génération,
Exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est quand il dit le « et ».
Oui, il a peut-être raison. Enfin,
Je n'en sais rien,
je fais l'avocat du diable.
Vous regardez en fait la COP21, là, il y avait un rapport qui avait été rendu à François Hollande par Canfin et Grandjean. Il te montrait les courbes de croissance comme ça, qui étaient corrélées aux courbes d'émissions de CO2. Et là, il fallait que les émissions de CO2 baissent drastiquement d'un seul coup. Moi, je la montre toujours à mes étudiants en premier cours, ils me disent tous « Ah mais monsieur, on est foutus là ». Parce que tout augmente et bah oui, il faut un changement radical complètement pour penser que ça va continuer comme ça, je pense que bon, c'est un petit peu illusoire, mais bon, peu importe. Lui, pourquoi il veut supprimer les et ? Parce qu'il veut qu'il y ait finalement une seule voix à la Banque mondiale, parce que si on met et, c'est quoi ? Modèle économique et lutte contre le réchauffement climatique. Ah, ça devient plus compliqué. Baisse des déficits et investissement dans les services publics, ça devient très compliqué. Mais moi, je pense qu'en économie, il manque surtout des « ou ». Modèle économique ou lutte contre le réchauffement climatique. Il faudrait mettre beaucoup plus de « ou », parce que c'est souvent des « ou ». Libre-échange ou baisse des émissions de CO2. Voilà. Et là, il n'y a pas du tout de « ou » en économie. Hein. Donc c'est là, c'est le vrai problème, surtout.
Voilà. Thomas Porcher, voilà qui est clair. Voilà, on va ajouter une corde à votre arc. Sauf si vous avez fait peut-être du théâtre au lycée, on ne sait pas, mais on a un sketch à vous faire faire.
Attention, avec le sketch de fin d'émission. Alors ça part de quelque chose qu'on a trouvé quand même plutôt consternant. Le romancier Akli Tadjer va aller rencontrer des élèves de première dans une classe de la Somme parce que les élèves de la classe avaient refusé de lire son roman sous prétexte que l'auteur n'était pas français, que l'histoire ne se passait pas en France et qu'il y avait des noms arabes dedans. Il va à cette rencontre. Nous sommes les élèves, Charline, Guillaume et moi-même, et vous êtes le professeur qui essaye de nous ramener à la raison.
Bonjour, monsieur Porcher !
Bonjour les enfants, je vous avais donc demandé de lire le livre d'Akli Tadjer.
On l'a pas fait, monsieur.
Et on le fera pas, c'est pas français, c'est arabe.
Mais non, enfin, déjà vous n'avez rien dit quand je vous l'ai donné.
Mais on croyait que c'était Margaret Tadjer.
Mon papa, il dit qu'on devrait lire Éric Zemmour. Ouais.
Écoute, Corinne, c'est moi le prof et je vous fais lire ce que je veux.
Ben, ma mère, elle dit que si on doit encore lire des livres étrangers, ben, elle viendra ici vous dire ses trois vérités.
On dit ses quatre vérités.
Non, mais parce qu'elle n'est pas à l'aise non plus avec les chiffres, parce qu'ils sont arabes.
Bon, dites-moi, alors, que voudriez-vous lire ?
Des auteurs français.
Ah, très bien, ben, je vous propose La Chartreuse de Parme.
Ah non, Parme, c'est en Italie, hein.
Mais c'est de Stendhal, l'auteur de Le Rouge et le Noir.
Ouais, bah si on peut juste avoir le rouge, parce que le noir...
Ou bien alors Marguerite Duras, son magnifique ouvrage Un barrage.
Ah, c'est bien, c'est un barrage.
Contre le Pacifique.
Berk ! Mais vous avez pas le même, mais genre dans La Volée de la Roya.
Mais d'ailleurs, Marguerite, c'est une femme, non ?
Les femmes, elles écrivent pas.
Bah non.
Il y a du boulot.
Bah oui, il y a du boulot. Bah le ménage, la cuisine.
Mon Dieu.
Ah, Dieu c'est bien. Ça c'est notre héritage catholique, ça, monsieur.
Bon, sinon on peut lire Vol de nuit.
Ah non.
Non, non.
Mais c'est un Saint-Exupéry.
Eh ben mon papa, il dit que 100% des vols de nuit, ils sont faits par des Arabes.
Bon, eh bien allez, proposez des choses alors.
Bah on voudrait bien lire Astérix par exemple. Mais pas celui où il va en Hispanie là, ou chez les Belges. Hein. Non.
J'imagine que Astérix chez Razad.
Non, 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 vous êtes fous. Corinne, elle va faire un AVC.
Agatha Christie, les dix petits nègres.
Non,
ça va pas, non. Ça m'aurait étonné.
En revanche, on veut bien lire L'Étranger.
Oui, parce que quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs.
Oh, vous me dégoûtez complètement. Ce que vous dites est honteux. Moi, je pense que vous êtes perdu pour la littérature.
Mais n'importe quoi. On n'est pas contre lire Mein Kampf.
Bah voilà, vous savez, le mec, il était fort dans les années 30. Il avait déjà anticipé ce qu'on penserait aujourd'hui.
Bon, arrêtez, je veux plus rien entendre. Pour la semaine prochaine, vous allez me lire une femme.
Oh, non.
Une femme étrangère.
Oh non.
Jane Austen, Orgueil et Préjugés.
Monsieur, on peut juste lire la partie Préjugés.
C'est donc le roman d'Akli Tadjer qui s'appelle Le Porteur de Cartable.
Exactement.
Et qui d'un coup, on a très très envie de lire. Eh oui.
C'est fou, ça,
et il va donc aller rencontrer les élèves qui ont refusé de lire son roman parce qu'il n'était pas français alors qu'il est franco-algérien. Voilà. Thomas Porcher, merci beaucoup d'avoir passé cette émission avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle votre livre qu'on recommande chaudement, Traité d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant, paru chez Fayard. Si vous êtes abonné aux Échos, vous serez peut-être moins d'accord, mais c'est intéressant quand même. Il faut le fameux ou de Thomas Porcher. C'est la fin de cette émission. Demain, on se retrouve avec Angèle.
Oui, et le mot de la fin, il est à vous, Charline, ah bon, avec votre analyse de l'économie en tant que science.
L'économie n'est pas une science neutre. Est-ce que c'est vraiment une science exacte? Pas vraiment.
Absolument
non plus.
Pas.
Donc, on n'est pas dans une science molle. Enfin, c'est une demi-molle.
C'est une science humaine. Non, mais c'est une science humaine.